But d'un Espagnol pour Lens, là, c'est...
Ça y est, il faut que je change les draps, là. Je l'avais oublié, celle-là.
Elle est géniale, celle-là, attends.
Moi aussi. Bah, c'est... C'était Christian Lopez, là, non, le...
Bah oui, bien sûr, oui.
Très bon joueur. Fred, tu veux nous parler également d'un attaquant espagnol. Qui va jouer en pointe? Tu as ton idée avec la sélection?
Bah, j'ai surtout une envie. Alors, je vais vous dire, il faut gratter un petit peu pour trouver des débats sur la sélection espagnole. Et ça m'inquiète un petit peu parce que tout le monde est à peu près d'accord. Tout le monde trouve que Lopetegui est super. Il est pas du tout clivant. Julen Lopetegui, le sélectionneur espagnol, pour ceux qui ne le connaissent pas. Tout le monde pense que les 23 qu'il a emmené, y a pas débat, que les équipes qui le 11 qu'il va mettre, de toute façon, quoi qu'il décide, ce sera bien, parce que tout le monde l'aime beaucoup, etc. Mais alors, il y a un petit débat, c'est vrai qu'on a l'idée de 10 sur 11 à peu près, hein, de l'équipe titulaire qui va débuter contre l'équipe du Portugal, en sachant que c'est un groupe hyper difficile avec l'Iran et le Maroc, et malheureux vaincu, quoi. C'est-à-dire, entre le Portugal et l'Espagne, celui qui perd, s'il vient perdant dans cette rencontre vendredi soir, ça risque d'être très très compliqué. Ouais. Et surtout, je pense que l'ordre des matchs est très défavorable aussi au Portugal, je pense, à mon avis, hein, parce que ça peut être compliqué pour les amis de Ronaldo. Enfin bref, il faudra marquer et gagner contre l'équipe du Portugal. Et là, il y a un petit doute pour la pointe. Je veux dire, c'est pas récent, hein, parce que on s'est souvent posé des questions en Espagne de savoir qui allait jouer poste de numéro 9. Le chouchou du sélectionneur, c'est Rodrigo. Celui qui a peut-être un éventail le plus grand, et puis celui qui se bat le mieux, le plus compétitif, celui qui met des coups un peu partout et qui fait le sale boulot pour les autres, vous le connaissez, il fait ça à l'Atlético et il faisait un bien monstre à notre Griezmann national, c'est bien entendu Diego Costa. Mais sauf que cette équipe d'Espagne, elle a quand même, même avec le Lopetegui, notamment dans les matchs de préparation, on l'a vu après le résultat 1-0 ce samedi contre la Tunisie, un problème pour transformer la domination. C'est-à-dire que ça joue bien, il y a de la possession, il y a des belles phases, mais ça ronronne parfois un petit peu, et ça serait pas assez d'occasion, et ça ne marque pas assez. Et ça peut être un petit souci. Rappelez-vous, en 2010, l'Espagne est championne du monde en étant...
1-0, 1-0, 1-0.
La sélection qui a marqué le moins de buts dans une phase finale. C'était que ça. Et parfois, tu joues un peu avec le feu. Et il y a un petit joueur comme ça qui aurait pu ne pas venir, hein, si Morata avait finalement été choisi, qui est Iago Aspas, un joueur qui est revenu au Celta Vigo, qui avait fait une aventure à Liverpool qui s'était complètement planté, hein, Philippe,
ouais, on s'est pas marché, d'accord.
Parce que culturellement, parce que footballistiquement, là, il fait partie de ces joueurs qui sont bien dans un pays, et il est bien en Espagne, il est bien en Galice, et ben, ce que moi j'aime chez Iago Aspas, c'est que, quand il a l'occasion, il se pose pas de questions, il est heureux d'être là, il n'hésite pas, il a un culot monstre. Et si j'ai un petit avis tranché à donner, c'est un petit avis, hein, parce que voilà, ça sera pas un drame si c'est un autre joueur et numéro 9 ce vendredi, mais je pense que Iago Aspas devrait être le numéro 9 et le meilleur atout offensif de cette équipe de l'Espagne face au Portugal.
Ah, il apporte quand même beaucoup de vivacité que les deux autres n'apportent peut-être pas, et beaucoup plus de mobilité. J'ai l'impression qu'il est plus complémentaire avec les milieux de terrain qui sont alignés.
Je trouve aussi. Après, parce que techniquement, voilà, il est très fort.
Diego Costa, on adore tous. Je pense que c'est un joueur qui est au-dessus des deux autres intrinsèquement. Mais après, en termes de complémentarité, je suis pas loin de penser comme toi. C'est vrai.
C'est vrai que tu dis Diego Costa quand t'es en face à Pepe, oui, c'est bien d'avoir Diego Costa, par exemple. Mais moi, j'aime beaucoup ce petit joueur très espagnol qu'est Iago Aspas. Et puis j'insiste, il se pose pas de questions, il frappe, il tente et des choses. Et c'est la raison pour laquelle il marque. Et c'est lui qui met le but de la victoire contre la Tunisie samedi.
Alors juste ça, c'est ta volonté, Fred, mais au niveau des tendances, des infos de celui qui
plutôt
commencera.
Rodrigo.
Plutôt Rodrigo.
Plutôt Rodrigo.
Ah, d'accord.
Ouais,
okay.
Plutôt Rodrigo. C'est vraiment.
Plutôt Rodrigo que Costa.
Ouais, parce que c'est-à-dire que c'est Lopetegui, c'est un homme fidèle et il aime beaucoup Rodrigo Moreno, quoi, le joueur de Valence, hein, qui fait une très belle saison.
Il a fait une belle saison,
l'un des responsables de la réussite de Valence, qui est qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà. Ouais. Parce que si moi je peux vous donner l'équipe déjà qui va jouer, hein.
Ah,
si
vas-y.
Ça vous intéresse. A priori, hein, c'est-à-dire c'est De Gea dans les buts. Il y a un seul doute sur le poste de latéral droit. Carvajal est retour de blessure, il sera pas prêt. Odriozola, il avait une petite gastro, mais on se dit ici que la solution, ce serait Nacho. L'homme à tout faire
à droite.
Du Real. Oui,
bah, parce qu'en
face, il y aura Cristiano. Bah non, ça serait plutôt. Ouais. Ce serait plutôt de mettre l'idée de mettre Nacho. C'est la tendance, les infos que sortent les envoyés spéciaux espagnols en Russie.
Aspi,
parce que de l'autre côté, t'as Jordi Alba très offensif. Donc, si tu as un latéral droit comme Nacho qui est très défensif, qui est très sérieux face à son coéquipier Ronaldo, ça peut être très.
Et Aspi, pas du tout. On n'en parle pas du tout.
Non, on n'en parle pas.
C'est bizarre.
Donc, Piqué, Ramos, Jordi Alba, Thiago, Busquets, Iniesta, Silva, Isco, et devant, sûrement.
Ouais, ça a de la gueule quand même, hein.
Bah, bien sûr, ça. Puis des alternatives sur le banc, vous avez Lucas Vasquez, vous avez Asensio.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est.
Coquet, ouais.
Oui, Coquet, Saoul.
Il y a du monde. C'est encore une sacrée équipe, quoi.
Mais juste à Spilicota, je pense qu'il le prend comme défenseur central, hein.
Ouais, mais il peut, il est à Marseille.
Parce que sinon, il y a trop d'arrière droit, là.
Mais
ça fait un moment qu'il joue dans les trois de derrière.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Nacho n'est pas un latéral. Nacho est un défenseur central qui joue aussi pour rendre service latéral gauche ou latéral droit.
C'est un très bon latéral droit.
Mais rappelez-vous un soir d'after, je vous avais parlé de lui, vous aviez rigolé
parce que pas tous.
Non, je sais, toi non, Pierre, parce que toi tu connais le foot.
Tu nous avais dit que c'était le joueur parfait.
Il a besoin d'être
câliné
un peu près.
En tout cas, pas à l'antenne.
Tu avais raison.
Oui, c'est ça, merci Pierre. C'était le joueur idéal pour n'importe quel entraîneur. Et ben, j'ai déjà préparé mon petit tweet pour jeudi soir, pour vendredi soir, s'il est titulaire contre le.
Il a vraiment
comme tu nous as dit ça dans Team Dugas, je suis allé vérifier, tu avais dit c'est le joueur parfait.
Non, mais ici aussi, il avait fait un
invité.
Ah oui, on parle de ça.
Oui, parce qu'il se blessait jamais, il s'est blessé une fois. C'était il y a 3 mois, mais ça va. Là, ça
moi,
va.
Je préfère Aspi. Dans le même profil.
Mais, il faut défendre face à Cristiano, et il a l'habitude de défendre contre Cristiano.
Ouais. Sacha. Après, j'avais une question qui concerne un des adversaires de l'Espagne en Coupe du Monde. Le Maroc a gagné son dernier match amical face à l'Estonie, 3-1, en jouant extrêmement bien. Ils sont partis, si je ne m'abuse, hier du côté de pour se rendre en Russie. Comment est-ce qu'on juge cette équipe du Maroc du côté de l'Espagne? Parce que ça va quand même être un beau duel.
Très bonne question. Alors, il faut quand même pas oublier que le Maroc, c'est à côté. Ouais. Le sud de l'Espagne, Tanger, c'est 14 kilomètres.
Bien sûr, ouais.
Le détroit de Gibraltar, donc c'est tout près. Alors, je vais pas vous dire qu'on suivait beaucoup la sélection espagnole en tirage au sort, mais depuis le tirage au sort, et on a notamment la chaîne Gol espagnole qui appartient à Mediapro, vous savez, qui seront bientôt en France, qui a une chaîne en clair ici sur la TNT, diffuse les matchs du Maroc, et c'est une équipe qui impressionne pas mal. Après, il y a des joueurs comme Achraf Hakimi, hein, qui est titulaire, qui joue au Real. Vous avez Amrabat qui joue à Leganés. Mm-hmm. Vous avez pas mal de joueurs qui jouent en Liga qu'on connaissait déjà, mais d'après les commentaires, commentaires généraux ici, c'est attention, c'est pas forcément une équipe qui est là uniquement pour faire de la figuration.
À mon avis, c'est plutôt attention au Portugal plutôt que attention.
Ils ont un bon entraîneur.
Oui, bien sûr.
On a beaucoup
moqué ici,
parce que c'est vrai que c'est un peu gaufré à Lille, mais c'est un super entraîneur.
On l'a moqué à Lille, en Ligue 1, mais avec la sélection africaine.
Il a pas été moqué.
On l'a pas vraiment moqué en Zambie, hein.
Non, mais France, il y a toujours eu ce petit côté un peu, il a une belle gueule, il s'est foutu torse nu, il a des SA.
C'est parce qu'ils ne savent pas.
Il a accompli un miracle absolu avec les sélections africaines.
Super entraîneur.
Oui, moi, je pas souvenir qu'on l'ait moqué
à part ça, bon.
Non, on l'a pas vraiment moqué.
Ça s'est mal fini quand il est parti de Lille.
Culturellement,
mais l'opinion publique et les médias n'ont pas.
Mais vous savez, le calendrier est hyper décisif.
Bien sûr, Fred.
Et on a l'impression qu'il est quand même très défavorable au Portugal, parce que je pense quand même que l'Espagne est supérieure au Portugal, même s'il y a Cristiano Ronaldo.
Absolument.
Donc, et moi, quand j'en parle avec mes amis marocains, en fait, tu regardes le premier match. Bon, la logique. Il y a pas de logique en commun, enfin bref. L'Espagne bat le Portugal. En même temps, le Maroc bat l'Iran.
Attention, l'Espagne... l'Iran, c'est pas mal, hein.
Non, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Mais voilà, donc la clé, c'est là. Mais si on est dans ce cas de figure-là, le deuxième match, c'est Espagne-Iran, ce qui fait que l'Espagne pourrait déjà être qualifiée première en jouant le dernier match qui serait face au Maroc.
Effectivement.
Et donc mettre l'équipe Fred.
Le temps passe.
Bien sûr,
malheureusement. Et comme on voulait dire un mot sur le Real quand même, allons-y maintenant. On n'arrive pas à trouver un entraîneur.
C'est terrible.
J'ai demandé à Pierre et tu fais agent d'entraîneur aussi, Pierre.
Attends. Non, mais il y avait Vieira, mais il est plus libre, donc j'ai fini.
Il paraît que ça va être Mitchell, la blague, quoi.
Non, il y a une info quand même à RMC Sport.
Non, mais la blague, c'est probablement un des pires entraîneurs de l'OM des 10 dernières années qui ferait passer Albert Raymond pour Guardiola à côté.
Non, je pense que tu exagères un petit peu.
Non.
Alors, il faut rester dans le contexte.
Aujourd'hui, on a sorti une info RMC Sport, Fred, sur Villas-Boas, le Real qui...
Nico Villas, on a parlé. C'est vrai que c'est un entraîneur de taille européenne. Oui. Donc, oui, ça peut être une alternative. Le chouchou, mais Philippe pourra le confirmer, Daniel Levy, le président de Tottenham, veut pas le lâcher, qui s'appelle Pochettino. Le problème, c'est que Daniel Levy, c'est de longues semaines de négociations. Et le Real a besoin d'entraîner cette semaine.
Il faut le mercato, il n'y a pas le temps
de négocier avec Daniel Levy. C'est ça le problème, parce que bien sûr que Pochettino veut venir au Real. On se retrouve aujourd'hui avec une sorte de plan B, c'est-à-dire vous avez Guti, c'est Tottenham, c'est impossible. Ouais. Guti, il s'occupe des moins de 19 ans.
C'est trop tôt.
Puis vous avez Guti, moi j'adore Guti, mais enfin Guti c'est quand même quelqu'un qui adore aller en boîte, etc. Et Cristiano, au moment où Guti rentre de boîte,
encore maintenant.
Même encore un peu maintenant. Guti c'est quelqu'un qui, en tant que joueur, disait je vais pas aller en boîte à 70 ans, je profite de la vie, etc. Quand tu vois par exemple Cristiano, la manière de fonctionner, etc. Je vois pas Guti donner des ordres à Cristiano, Guti sera un grand entraîneur parce que c'est bien ce qu'il fait avec les jeunes du Real. Mais il a même pas encore entraîné le Castilla.
Il a fait mal, Fred. Si Cristiano arrive à l'entraînement avant Guti qui sortira de boîte après.
Il y a Michel, non, c'est alors, ça.
Il y a deux plans B, Michel, parce que
voilà, c'est
une légende du Real Madrid. Ben
oui. Oui, mais en tant qu'entraîneur, c'est une farce.
Oui, mais tu te rends pas compte l'image qu'il a là-bas et le poids qu'il a ce mec-là là-bas.
Jean-Louis, toi, tu sais, parce que t'as vécu ici, c'est un mythe du Real Madrid. C'est la quinta de Buitre. C'est quelqu'un qui va entrer dans le vestiaire, qui connaît tout. Il connaît le fonctionnement politique du Real, et ça aussi c'est important. C'est quelqu'un qui va être respecté par les joueurs, c'est quelqu'un qui a entraîné le Castilla, qui a entraîné Séville, qui a entraîné plein de clubs Malaga, même si ça s'est pas bien passé à la fin, il les a sauvés la saison dernière. Et Michel est quelqu'un de respecté, donc s'il faut une solution B, un plan B d'urgence, Michel il entre. Et moi j'ai eu l'occasion de d'échanger avec lui parce que je le connais depuis toujours, enfin depuis que je suis à Madrid. Michel, il dirait pas non à cette occasion là, donc il a pas encore reçu de proposition, mais si elle arrive. Et l'autre
et
c'est
Laudrup.
Michel Laudrup.
Ça c'est
Michel
bien. Laudrup,
parce que ça joue bien au foot en plus.
Ouais.
Et Antonio Conte.
Il a joué.
Il a joué au Real, oui.
Il a joué au Real pendant
deux ans, ouais.
Mais Philippe Barcelone.
Attendez, il y a eu un accent de Sacha Tavolieri qui maîtrise aussi l'italien, donc.
Non, je pense qu'il y a aussi le cas Antonio Conte qui en Italie fait beaucoup parler du côté du Real.
Mais Conte au Real, ça colle pas.
Tiens, 10 minutes.
Ça colle pas.
Philippe,
Laudrup, moi je trouvais, enfin, il a quand même fait des belles choses à Swansea. Qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi c'est, comment ça se fait qu'il soit
Il a un mode de gestion assez particulier, et c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement très facile d'abord. Qui a une certaine arrogance, on va dire, qui a eu des problèmes à Swansea dus à son mode de gestion du vestiaire en particulier. C'est pas bien passé, mais cela dit, pendant le temps où il était là, il a gagné la League Cup, il fait gagner.
J'essaie de le dire en français.
Coupe.
J'essaie de le dire avec l'accent français.
La Coupe de la Ligue. Ouais. Et Swansea jouait très très bien quand il passait là. Et ce que je me pose, la question que je me pose également, parce que quand on parle de Michael Laudrup, on parle quand même de l'un des grands joueurs de sa génération,
des plus élégants qu'on ait vu sur Internet.
Magnifique.
Et ça, au Real Madrid, ça compte.
C'est ce que j'allais te dire. Il présente bien, il est beau mec, il parle très bien, il veut faire jouer le football que j'imagine les merengues veulent voir. Et c'est également un entraîneur qui, s'il arrivait dans le vestiaire, je pense que les joueurs le regarderont en se disant c'est pas un clown celui-là.
Et pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Guti, qui a l'air de plaire beaucoup, etc. Guti, il a vraiment des qualités d'entraîneur. C'est-à-dire qu'il a une autorité naturelle qui est étonnante quand on a vu le joueur
fantasque
qu'il a été, parce que c'est quand même un immense talent qui a été un peu gâché
très irrégulier,
puis sa vie, parce que c'est un mec qui aime la vie.
Il a profité, attends.
Mais bien sûr, assumé. Mais je pense qu'aujourd'hui,
c'est difficile de demander ça à ton groupe, enfin, de demander le contraire.
Bien sûr.
C'est pour ça qui est difficile aujourd'hui. Et Guti, il sera peut-être un jour entraîneur du Real Madrid, mais il faut passer par la case Castilla avant. Et, Michel l'a fait, Laudrup a joué deux ans au Real, il a entraîné Mallorca, il entraînait Getafe, ça jouait bien en foot. Après, le Real va peut-être sortir un...
un nom de son chapeau.
Un nom de son chapeau, etc. Il sait faire.
C'est compliqué, mais, en tout cas, non?
Un petit lapin
c'est
blanc.
C'est compliqué parce que c'était pas le temps, quoi.
Alors, Guti, c'est quand même le joueur où faut se refaire ses compiles YouTube,
là. Petite talonnade, là.
Vous revoyez, vous revoyez ses plus belles actions.
C'est un magnifique joueur,
il y a une talonnade à la Corogne.
Exactement,
pour le but de Benzema qui est absolument extraordinaire.
On s'en rappelle. Philippe, sur la gastronomie, on voulait te baisser ton micro à la base.
Ah oui, j'ai dit ça, moi.
Non, mais il y a des très bons restos à Londres.
Oui, bien
très
sûr.
Cher, mais très
bien sûr.
Parfois moins cher qu'à Paris, hein. Je peux vous donner des adresses qui sont de très très bonne qualité.
Ah, je prends. On attend que tu nous invites surtout. Plutôt que de donner des adresses.
Écoute, c'est un
facteur qui peut inviter.
On va peut-être faire une. Oui, on va peut-être faire
une délocalisation.
Hein? Une note de
délocalisation. Bah oui, pourquoi pas. On pourrait faire l'after dans chaque pays européen.
Attends, Philippe peut faire à la cuisine lui-même.
Aussi. Ah, et nous faire un petit concert en plus.
Donc voilà. Absolument.
Voilà.
Ça coûte très très cher par contre.
Moi je.
Sacha aussi peut nous faire des concerts.
Je suis comme Philippe Auclair qui est un très grand artiste. Je l'ai appris dernièrement.
Bah, bien sûr.
Et voilà, je tiens à afficher ma solidarité artistique avec un grand monsieur comme Philippe Auclair.
C'est
voilà.
Beau. Bravo. Bah, oui.
Je t'embrasse.
Et Philippe, tu vas nous parler quoi du retour de Tyson Fury de...
Non, parce que c'était quand même
c'était
le retour. Il a boxé contre un sac de patates, quoi.
Un mec qui est de catégorie en dessous de poids aussi, c'est ça qui est un peu.
Ouais, absolument. Un cruiserweight, je sais pas comment dire en français, mais bon, bref.
C'est ça.
Cruiserweight. Bon.
Non, on va parler.
Oui, on va essayer de parler un peu de football, mais en fait, on se posait la question aujourd'hui, avoir un avis tranché sur l'équipe d'Angleterre. C'est pas évident parce qu'en fait, il se passe tellement peu de choses autour de l'équipe d'Angleterre, c'est nouveau, mais ça montre que l'équipe d'Angleterre est en train de réussir son premier pari. Vous allez dire que le tournoi est même pas commencé, donc si ça se trouve, on tiendra un discours complètement différent après le match contre Panama ou contre la Tunisie. Mais le but de Gareth Southgate est véritablement de faire en sorte que cette équipe, cette sélection anglaise, qui a tellement déçu lors des tournois récents, souvenez-vous à la Coupe du Monde au Brésil, souvenez-vous surtout la défaite contre l'Islande, elle est en train de vivre ce que j'appellerais un petit peu l'équivalent de son post Naesna. C'est-à-dire qu'il faut que faire en sorte que le public anglais retombe amoureux de son équipe, et le pari est en train d'être réussi grâce à Gareth Southgate, qui est de plus en plus impressionnant dans la façon dont il prépare cette équipe. Alors on verra ce que ça va donner sur le terrain. Dans les matchs amicaux, je pense que vous avez dû la voir, cette équipe d'Angleterre,
c'est pas mal.
C'est séduisant. Ça ose, ça prend des risques, c'est jeune, ça a du rythme, ça gagne. Et ça gagne plutôt bien. Mais je dirais qu'encore plus important que cela, c'est l'atmosphère autour de l'équipe qui est complètement changée. On a vu une chose assez incroyable la semaine dernière. La presse a été invitée à venir rendre visite à l'équipe d'Angleterre avant qu'elle s'en aille pour la Russie. Ils sont maintenant arrivés à leur base qui est près de Saint-Pétersbourg. Tous les joueurs de l'équipe d'Angleterre étaient là. Il y a eu une espèce de, free for all. C'est-à-dire que c'était une salle, tout le monde était ouvert, tout le monde pouvait parler avec tout le monde. Les joueurs étaient là à parler avec les journalistes en liberté complète, sans les estrades, les micros, les machins, les trucs.
Le protocole.
Et tu avais... Ouais, le protocole avait été... Un autre protocole avait été mis en place, qui était le protocole d'autrefois, qui est un protocole beaucoup plus lâche, beaucoup plus fluide, beaucoup plus humain, je dirais, et qui a été très apprécié par les joueurs, par l'encadrement d'Angleterre, également par les journalistes. Et du coup, tu as un changement de ton, je pense, dans les médias vis-à-vis de l'équipe d'Angleterre, mis à part ce que fait le Sun, infamerie raciste sur Raheem Sterling. L'atmosphère autour, elle n'est pas optimiste au sens on va aller en finale, on va gagner. Elle est optimiste en ce sens que elle se dit c'est une équipe d'Angleterre qui nous ressemble, c'est une équipe d'Angleterre qui va faire bon supporter.
Ouais. Philippe,
et ça c'est vachement important, tu vois, quand tu vas dans un tournoi, que tu sens que tu as le pays derrière toi.
La question que j'ai, c'est j'ai l'impression, alors je suis à me dire si je me trompe pas, que quel est l'objectif de cette équipe d'Angleterre, et est-ce que c'est pas une équipe qui justement, avec cet entraîneur, ce sélectionneur qui est très jeune, ces joueurs qui sont talentueux mais qui sont eux aussi très jeunes, c'est pas non, enfin voilà, c'est on prépare en quelque sorte un nouveau cycle, et cette Coupe du Monde est juste une étape.
Oui, c'est étape vers 2022. C'est la troisième équipe la plus jeune de l'histoire de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Les cadres, surtout en attaque, sont des joueurs extrêmement jeunes. Que ce soit Kane, Sterling, Ali, Lingard, enfin Lingard un petit peu moins, mais Rashford qui n'a que 19 ans. Donc c'est un petit peu pour le tournoi d'après, mais sait-on jamais. Si tu veux, moi quand je regarde, je voudrais vous demander votre avis, parce que nous d'Angleterre, on voit comme tout le monde trois équipes qui se détachent.
Oui. Bon,
c'est l'Espagne, le Brésil et l'Allemagne. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mmh. Je pense que c'est universel. Derrière, en Angleterre, on voit la France. un petit peu la Belgique.
En Belgique, on voit aussi la France.
Beaucoup plus loin. Et alors que moi j'ai l'impression que, bien qu'étant en Angleterre, si je me place un petit peu en dehors et que je regarde quels sont les outsiders en dehors des trois qu'on a cités, je vois l'Angleterre parmi ces outsiders pour moi.
Il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux, Philippe. Mais je pense que derrière les trois, il y a un groupe d'outsiders avec la France, avec la Belgique, avec la Colombie, avec l'Argentine, avec l'Uruguay.
Oui, avec l'Argentine, bien sûr, oui.
J'en oublie peut-être,
et mais je pense que juste derrière.
Et les Anglais sont le groupe de
la Croatie qui peut également
aussi, oui. Casser les pieds. Mais je pense que les Anglais sont juste derrière.
Par contre, Philippe, je trouve qu'il y a une osmose et dans l'intensité de jeu, on ressent quelque chose de très fort au sein de cette équipe. Moi, je l'ai bien ressenti face au Nigeria. Il y a un rythme, les joueurs aiment jouer ensemble, ils se comprennent extrêmement bien.
C'est
vivifiant. En fait, à voir jouer, c'est super agréable, quoi. C'est une des seules équipes vraiment une équipe nationale où je me suis pas un petit peu assoupi. J'ai regardé les 90 minutes avec grand intérêt et grande passion. C'était très très intéressant ce qu'ils proposent.
Et ce qu'ils ont fait contre Costa Rica également, c'était très chouette avec une équipe B.
Ouais.
Alors encore une fois, moi je dis on va tempérer les enthousiasmes. C'est pas une très très grande équipe d'Angleterre. Il y a des lacunes. Il y a peut-être pas de grands demi défensifs. La défense,
c'est
défense
mal.
À trois. Non, Ederson, c'est bien. Attends, oui, on parle du capitaine de l'équipe qui a joué la finale de la Ligue des Champions, rien. Et même Eric Dier, c'est pas rien non plus. Et la défense, Kyle Walker, pour moi, c'est un des meilleurs arrières en Europe. Nous en parlerons mercredi soir, d'ailleurs. Au passage, faisons un petit peu de pub, les gars. Mercredi soir,
little bit of teasing.
La fameuse soirée des chapeaux.
Ah oui, parce que je me suis fait disputer parce que je les ai annoncés la semaine dernière. Finalement, c'est mercredi là.
Voilà. Le sombrero.
C'est ce mercredi qui vient et j'aurai l'occasion de parler de Kyle Walker, mais je pense pas que ce soit une surprise si jamais Kyle Walker est dans un de mes chapeaux supérieurs. Mais il y a malgré tout des petites déficiences, si ce n'est des carences dans cette équipe. On verra ce que ça va donner en Russie, mais tu as raison. Il y a une ambiance très positive et très fraîche. Et c'est pour ça que je te dis que l'ambition, au-delà, si tu arrives en quart de finale, ça sera contrat rempli, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Mais l'ambition, c'est surtout, on veut que les gens nous soutiennent et que quand on revient au pays, les gens se diront, bravo, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et franchement, l'atmosphère fait plaisir à vivre. Autant l'Angleterre est un pays où il est compliqué de vivre en ce moment à beaucoup d'égards quand vous êtes un étranger, je peux vous le garantir. Autant l'atmosphère qui entoure l'équipe d'Angleterre est complètement différente. C'est une atmosphère jeune, vive, fraîche, ouverte.
Ça, c'est bon signe.
Ok. Exactement.
Bon, merci. Écoute, on verra si ça se vérifie sur le terrain et
on verra
sur la relation avec le public pendant la Coupe du Monde. On revient dans un instant.
Et on est très jaloux au passage que Patrick Vieira, que nous adorons ici, s'en aille à le G7.
C'est pour vieux revenir, tu sais.
Il viendra à City plus tard.
Mais je sais, mais on est un petit peu jaloux parce qu'on l'adore tellement ici que bon.
Ah, très bien. Il manque des leaders en Allemagne. C'est ce que va nous dire David Lorto dans son
dernier un peu. David, là.
Mais est-ce qu'il y a un projet?
On se calme.
Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Et là, tu piques un débat français. Il manque des leaders en Allemagne.
Exactement, parce que à force d'entendre parler des inquiétudes autour de la Mannschaft, parce que il y a eu 4 matchs, 5 matchs même sans succès consécutifs avant la poussive victoire contre l'Arabie Saoudite ce week-end. Moi qui étais plutôt sur la logique ça va bien, il y a des champions du monde en titre, on va trouver la solution en Allemagne parce qu'on a réussi le mix entre les anciens et les modernes. Ça j'en ai parlé régulièrement au cours des derniers afters. À force de voir les petites inquiétudes, les petites insuffisances qui s'accumulent quand même côté allemand, on pourrait en citer quelques-unes. Je suis preneur évidemment de réactions aussi des confrères, mais je me suis dit que peut-être le problème principal, c'était que si on reprend les faits, en 2014, l'Allemagne est championne du monde. Philipp Lahm s'en va, le capitaine. Per Mertesacker s'en va. Alors on se moque de son niveau de jeu, pas de problème. Mais n'empêche que lorsqu'il était en dehors du terrain, il savait ouvrir sa...
Faut regarder le documentaire là, qui est extraordinaire.
De temps en temps, voilà. Exactement. Ça fait deux. Bastian Schweinsteiger, qui est le guerrier de la finale, s'en va lui aussi. Miroslav Klose, qui est l'avant-centre historique, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors certes, sur X Coupe du Monde, mais c'est le meilleur buteur quand même, s'en va lui aussi. Ça fait quatre joueurs essentiels, des leaders, chacun dans son genre, qui sont partis. Et aujourd'hui, il me semble que l'un des dangers qui pourrait menacer la Mannschaft dans la conquête du deuxième titre consécutif, puisque c'est l'objectif affiché, affirmé dans la communication et dans le par la voix des principaux interlocuteurs, peut-être le danger principal, c'est le manque de leader. Le capitaine Manuel Neuer, qui a été réintroduit capitaine dès son retour, il n'a pas joué, on le sait, quasiment depuis le mois de septembre. Ça fait un capitaine légitime parce qu'il a un passif, un passé, entre guillemets, mais aujourd'hui, il faut se réimposer instantanément. Ça fait un petit souci. Bon, ça fait un leader potentiel qui est éventuellement, qu'on peut remettre en question. Thomas Müller, qui a été son capitaine remplaçant, son vice-capitaine. Ok, c'est un joueur essentiel, on connaît ses qualités individuelles, singulières, inédites. Je suis pas sûr que ça soit un taulier dans le sens Effenberg, Oliver Kahn, Matheus et d'autres. Mats Hummels, qui arrive à ouvrir un peu lui aussi son caquet sur des sujets essentiels. Je suis pas sûr que lui non plus ce soit un leader. C'est un beau gosse, c'est un joueur reconnu sur son niveau de football, mais je crois pas que ce soit un taulier du vestiaire. Jérôme Boateng était récemment blessé.
Pas trop,
c'est pas non plus un leader.
C'est pas le profil. Psychologique.
Voilà. Au milieu de terrain.
Khedira quand même.
Alors voilà, il y a Khedira, mais lui aussi est plutôt un
Khedira
joueur.
Pas
alors,
chose.
Ouais, je vais pas dire, introverti parce que ce serait excessif, mais c'est pas forcément, c'est pas le remplaçant de Schweinsteiger, c'est pas le leader naturel.
Non, c'est vrai.
Il a son vécu, il a joué dans les plus grands clubs, mais c'est pas ce qu'on appellerait un taulier, un leader. En attaque, Timo Werner est tout jeune, mais Mario Gomez est bien content d'être là, buteur de Stuttgart, mais c'est pareil, c'est pas un leader non plus. Marco Reus va être peut-être la valeur ajoutée de l'équipe nationale pour ce mondial, mais c'est un super joueur, là non plus, c'est pas un leader. Peut-être que le problème principal, et là ça nous demande à nous un peu de recul, un peu de culture sur les Coupes du Monde passées, il y a besoin... Rappelez-vous, on n'a pas besoin de revenir en 54 et en 74 quand l'Allemagne a gagné ses deux premiers titres. En 90, clairement, vous avez Matheus qui soulève la coupe. Ben oui, il s'impose. Vous avez Andreas Brehme qui marque le pénalty en finale contre l'Argentine. Ben oui, il s'est imposé. En 2014, c'est pareil. On les a cités à l'instant.
Ouais.
Schweinsteiger s'est imposé par sa prestation en finale. Et là, aujourd'hui... lorsqu'il y a eu ce petit souci avec Gundogan et Özil, avec leur visite lorsqu'ils ont rendu visite au président
ouais,
turc,
Erdogan, ouais.
La communication derrière a été brouillée. Angela Merkel s'en est mêlée, la chancelière. Oliver Bierhoff, le manager de cette équipe, a dit bon maintenant ça suffit. Ça voulait dire qu'il maîtrisait pas parfaitement la communication de l'équipe. Voilà, c'est peut-être le défaut principal. Je sais que les inquiétudes sont sur le terrain parce que les matchs amicaux n'ont pas été brillants.
Ouais, bon.
Mais ça, à la limite, l'équipe nationale d'Allemagne, elle a l'habitude de ces matchs amicaux poussifs. Le leader, le taulier...
Globalement, David, mais
oui.
Il y a de moins en moins de leaders en général, non? Dans le profil que tu décris.
D'une manière ouais. Générale, oui.
Tu veux dire en Allemagne ou
non, partout, dans le foot, globalement. Bah, j'ai l'impression que ce débat peut être... appliqué à d'autres endroits sans problème.
Il n'y a pas de Sergio Ramos.
Attendez, oui, bah alors.
Sergio Ramos, c'est le leader ultime. C'est synonyme dans le dictionnaire.
T'es dans un pays où...
En Angleterre, Philippe?
Non, il n'y en a pas, mais c'est une équipe qui est jeune.
Angleterre, Belgique,
Allemagne,
non, Belgique, t'en as un, c'est Vincent Kompany. Attends, arrête.
Oui, bah ça c'est, ça reste encore à prouver, mon cher ami. Je sais pas si c'est un leader. Et oui, pour le groupe, il est respecté. C'est un Captain America à l'image.
Moi, je pense qu'il faut faire le deuil.
L'image Netflix, quoi. Hein, mais c'est pas vraiment un patron comme on a.
30 secondes, malheureusement.
Comme on
ce débat est excellent sur la disparition des leaders dans le foot en général.
Mon petit.
Mais on le fera une autre fois. Bah du coup,
t'as déjà
dans l'équipe du Pérou. Tapia, je peux vous garantir que c'est un leader.
Tapia, Yotun, Guerrero. Oh, ouais, ils ont des leaders, ouais.
Bon, bah, très bien. Alors, le Pérou a des leaders.
Merci. C'est normal, c'est l'ensemble des leaders espagnols.
Non, mais il faut redonner le synonyme.
Merci.
Je renseigne sur l'Arabie Saoudite, sur les leaders.